Mémoire d'un continent.
Elikiem Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
Un philosophe africain au siècle des Lumières, Amo le Guinéen, sa vie. Le siècle des Lumières, c'est ce long 18e siècle qui commence aux alentours de 1680-1700 et qui se prolonge, disons, jusqu'à la Révolution française en 1789. En Europe, on dit siècle des Lumières, puisque en effet, le siècle a été marqué par un élan, une inventivité dans le domaine de la pensée, de la philosophie, de la réflexion, du droit, une avancée tout à fait exceptionnelle. Même si en même temps cet élan spirituel et intellectuel reposait sur une prospérité matérielle indiscutable, mais celle-ci était basée très 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 largement sur les trafics des esclaves. Trafic d'ailleurs qui a produit des effets désastreux en Afrique, positifs pour l'Europe, et qui a eu pour conséquence le fait qu'un certain nombre d'Africains ont échappé à l'esclavage pour rester sur leur continent, et quelques-uns ont pu gagner l'Europe. En Europe, on ne dit pas africain, on ne dit pas non plus esclave, puisque ce fait devait être caché. On dit simplement les nègres. Les nègres, ça veut dire esclaves. Quelquefois, on distingue entre les nègres et les mulâtres. À l'époque, le mot mulâtre était préféré au mot de métis. Évidemment, ce siècle douloureux ne doit pas être vu sous un angle absolument négatif, puisqu'il y a aussi dans ce malheur continu des aspects très très intéressants pour nous. Parce que dans ce siècle de l'esclavage, on voit émerger, malgré la dureté de l'esclavage, des figures de talent, des figures de génie, qui sont l'une des caractéristiques justement de cette capacité des résistances des peuples dominés. Parmi ces figures, l'une des plus fameuses, peut-être la plus fameuse, est sans aucun doute Amo. Amo, c'est son nom de naissance, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, dans les pays que sont la Côte d'Ivoire et le Ghana, il y a des gens qui s'appellent Amo, donc Amo, mis en latin Amo, et de ses prénoms, disons des prénoms qu'on lui a donnés, Anton William. Donc Anton William Amo. D'ailleurs, il ne tardera pas à ajouter à son nom Amo Guinea Affaire, Amo africain de Guinée. Donc c'est un nom de choix. Cette figure est trop peu connue. Trop peu connue d'abord parmi les Africains, trop peu connue évidemment en dehors du continent africain, mais en même temps, certaines des figures intellectuelles les plus éminentes du continent ont parlé de lui, ont discuté de lui. Kwame Nkrumah, l'un des tout premiers philosophes du Ghana moderne, dit beaucoup de choses de cet Amo depuis les années 1940 jusqu'aux années 1960, nous en parlerons. D'autres philosophes plus critiques se fondent sur l'idée que il a écrit en allemand, il a écrit en latin, il parlait beaucoup de langues, et que de ce point de vue, sa philosophie n'aurait rien de spécifiquement africain, et qu'il serait donc quelqu'un, un Africain aliéné. Ce sont des choses évidemment à discuter, et nous allons en discuter avec notre invité d'aujourd'hui, Yoporeka Sommet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe de formation, docteur en philosophie. Vous êtes chargé d'éducation à Nancy, dans l'est de la France. Et en même temps, vous écrivez des textes de philosophie. Vous êtes aussi, dans la continuation de Cheikh Anta Diop et peut-être d'Amo, justement, le Guinéen. Vous êtes un professeur de questions africaines et en particulier des questions liées à l'égyptologie.
Oui, je suis philosophe de formation, c'est ma formation initiale. Ensuite, je me suis aussi spécialisé en égyptologie, on va dire, puisque j'ai soutenu récemment une thèse de doctorat en égyptologie, donc à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et c'est dans cette dans cette deuxième voie que j'enseigne aussi la langue égyptienne hiéroglyphique au sein de l'association Kepera à Paris. Donc l'association Kepera a été formée par les continuateurs de l'œuvre de Cheikh Anta Diop.
Vous venez de présenter un ouvrage important sous le titre Anthony William Amo, sa vie et son œuvre. Ce livre, je dirais, se situe dans la continuation d'un autre livre important que je voudrais citer ici. C'est le livre de l'abbé Grégoire. L'abbé Grégoire, Henri de son prénom, était un prêtre, combattant de l'égalité des religions. Il était pour la liberté de conscience et de culte pour les protestants et pour les juifs, anti-esclavagiste militant, bien sûr, et entre autres livres, il en a publié un sous le titre « De la littérature des nègres ». Recherche sur leurs facultés intellectuelles, leurs qualités morales et leur littérature, suivi de notices sur la vie et les ouvrages des nègres qui se sont distingués dans les sciences, les lettres et les arts. C'est un titre un peu long comme on le faisait à l'époque. Il était l'un des premiers à parler de d'Amo. Alors, d'où vient cette idée de publier ces textes? J'avoue que pour ma part, c'est la première fois que je les lis en continu.
Amo, c'est vraiment une figure exceptionnelle. L'une des plus grandes figures, je pense, dans l'histoire de l'Afrique, au moins depuis les siècles des Lumières. Je vais m'expliquer. Et moi, j'ai entendu parler de cette figure quand j'étais étudiant en philosophie à l'université de Ouagadougou. Et puis, c'était un nom qui était évoqué comme ça. On avait accès au conscientisme de Nkrumah, Nkrumah fait une citation en passant, très rapidement. Et plus tard, moi, j'ai découvert dans la biographie de Nkrumah, donc son autobiographie qui date de 1957, l'année de l'indépendance du Ghana, il raconte comment il en est venu à connaître Amo, donc c'était pendant ses études aux États-Unis, et il raconte qu'une fois qu'il a quitté les États-Unis pour aller poursuivre ses études de philosophie à Londres, il s'est rendu à British Library pour consulter les ouvrages d'Amo, dont il avait eu connaissance pendant ses études aux États-Unis, et que malheureusement, il a constaté, on lui a dit que les deux ouvrages d'Amo dont il avait connaissance avaient brûlé pendant les bombardements de Londres.
Et on pense que c'était l'unique exemplaire de la thèse qui a brûlé. Mais on sait que d'autres l'ont lu puisque l'abbé Grégoire a entendu ou vu des gens qui lui parlaient de cette fameuse thèse de doctorat.
Oui, l'abbé Grégoire a certainement l'a lu ou a eu accès ou a lu des commentaires de gens qui avaient eu accès à l'ouvrage.
Et donc, votre livre ne contient pas malheureusement cette thèse-là, mais contient d'autres textes de Amo qui, à ma connaissance, sont pour la première fois disponibles en français.
C'est ça. En fait, la présentation du livre comprend trois documents importants. Donc, la thèse de philosophie d'Amo, c'est par la philosophie qu'il s'est distingué. Il écrivait en latin, le titre en français c'est « De l'apathie de l'âme humaine » ou « De l'incapacité de l'âme de sentir ». Donc ça c'est le premier ouvrage contenu dans l'œuvre qu'on a publiée, suivi d'un deuxième ouvrage aussi, un ouvrage de philosophie, mais qui apparemment, très certainement, est une thèse, à l'époque ça s'appelait une dissertation, qu'un étudiant d'Amo a fait sous sa direction. Et cet ouvrage-là porte le titre suivant, donc il reprend peut-être un peu la thèse que Amo a soutenue lui-même en 1734. Donc la thèse s'appelle « Sur les idées distinctes des choses qui appartiennent soit à notre âme, soit à notre corps organique ». Et ce travail a été fait par un étudiant, donc il s'appelait Johann Theodosius Meiner, donc un Allemand. Donc ça, c'est le deuxième texte. Et le troisième texte, enfin, c'est un livre que Amo a publié et qui lui a servi de base pour donner ses cours à l'université de Halle et de Iéna, et qui s'appelle « De l'art de philosopher avec simplicité et sobriété » en français. Le seul ouvrage qu'on n'a pas réussi à trouver jusqu'à nos jours, c'est un ouvrage qui s'appelle aussi une dissertation inaugurale, donc c'était peut-être une thèse en droit, et qui portait le titre de « De jure mororum in Europa »,
c'est-à-dire du droit des Noirs en Europe.
Des Noirs en Europe.
Oui.
Il aurait été très intéressant de savoir ce que contenait cette thèse, mais on peut deviner, hein, on ne l'a pas encore retrouvée, et elle a été descendue en 1729.
Alors, à partir de toutes ces choses, est-ce qu'on peut imaginer ce qu'a été sa vie? C'est-à-dire, on pense qu'il est né dans le Ghana d'aujourd'hui, mais à l'époque c'était la Gold Coast, on disait que parfois en élargissant la côte des esclaves. Est-ce qu'on sait comment cet enfant ou ce jeune homme est arrivé de là-bas en Allemagne?
Bon, on a quelques éléments, hein, sur à peu près la période de sa naissance, l'année de sa naissance, la région de sa naissance. Alors, Nkrumah pense que c'était un Zima, comme lui-même, donc il serait né à Axim, dans les années 1703. Et ça, c'est les dates qui sont données par le philosophe William Abraham, qui était un Ghanéen, un proche conseiller de Nkrumah, qui avait aussi étudié la philosophie à Oxford. Et donc, je pense que Amou est né vers les années 1703, qu'il a été capturé étant enfant et envoyé par les Hollandais et emmené en Hollande, donc comme un enfant volé qu'on va offrir dans les cours royales. Donc il arrive en Hollande et les personnes qui l'ont enlevé l'offrent à un duc de Basse-Saxe, donc au duc de Wolfenbüttel. Et cet homme-là, donc qui est un homme certainement éclairé, le fait baptiser vers 1708 et donne à Amou, donc qui a son nom africain, lui donne les prénoms de Anton et de William. Ils sont les noms de ses propres enfants à lui.
Et alors, de là, donc il est entré en Europe par la Hollande. Comment est-ce qu'il se retrouve dans ce que nous appelons aujourd'hui l'Allemagne, qui n'existait pas en tant que telle à l'époque?
Oui, c'était la Prusse ou la Basse-Saxe. Bon, en fait, il arrive dans cette cour du prince de Wolfenbüttel, qui était un homme, un personnage très puissant. Donc, si on revient un peu en arrière, on sait que pendant la période de traite, des enfants noirs étaient, ou des adultes noirs étaient offerts dans les cours royales pour servir de maîtres de table, de serviteurs, etc.
Et il y en avait beaucoup, quelques-uns arrivaient quand même à se hisser vers, pas les sommets, mais enfin, les hauts de la société.
Tout à fait. C'est à partir de cet instant-là que le destin d'Amou, pour moi, change. Alors, parce qu'il est entre les mains de gens, on va dire, plus éclairé que la moyenne, je vais m'expliquer là-dessus. Il se fait baptiser, mais ça, c'est pas ce qui est exceptionnel, parce que ça se pratiquait aussi comme ça dans les plantations. Mais ce qui est exceptionnel, c'est que ce duc-là va lui garantir une éducation au même titre qu'à ses propres enfants. Ce qui fait que Amou entre à l'académie de Ritter, donc à Wolfenbüttel, donc dans la localité, entre 1717, où il reste jusqu'à 1720 à peu près, et ensuite on le trouve à l'université de Helmstedt, 1721 jusqu'à 1724. Donc on va dire qu'il fait une formation universitaire classique.
Comme les enfants de l'aristocratie à la même époque.
Faisons remarquer qu'à cette époque-là, c'est pas comme aujourd'hui, les études universitaires étaient réservées à une infime minorité. Je rappelle d'ailleurs que, à cette époque-là, les femmes, même des cours royales, même des personnes éminentes, n'avaient pas le droit d'étudier certaines matières, donc à l'université. Puisque dans la recherche que j'ai faite, ça, j'ouvre une petite parenthèse pour. Je découvre l'histoire d'une femme dont le père était médecin, donc une femme prusse, hein, prussienne, dont le père était médecin et qui a dû demander l'autorisation à Frédéric II pour entrer.
Le roi de Prusse, donc, oui.
Oui, le roi de Prusse, pour entrer dans la même université que Amou, donc à Wittenberg, pour étudier la médecine. Et c'était la toute première femme avoir étudié la médecine dans cette partie de l'Europe.
Est-ce que Wittenberg, de ce point de vue, ne serait pas, comment dire, une sorte d'université pilote du point de vue de l'égalité de traitement réservée aux enfants de l'aristocratie prussienne et puis aux autres, un noir par exemple et une femme?
Et je pense que cette université-là, donc qui s'appelle Halle Wittenberg aujourd'hui, existe encore, et en fait, je dirais un argument dans ce sens-là, et je trouve qu'ils ont tout à fait raison. Parce que cette université aura été la première à accueillir un Africain, un Noir, qui a fait des études de brillantes études, et qui est devenu professeur de philosophie dans plusieurs universités allemandes, hein, comme Halle, comme INA, donc un des très hauts lieux de l'enseignement de la philosophie.
Alors, donc, si on pouvait faire juste une comparaison, hein, comparaison n'est pas raison, c'est-à-dire il enseignait dans des universités où vont enseigner plus tard des gens comme Hegel ou comme Emmanuel Kant.
Comme Kant, oui, tout à fait, tout à fait. Et pour faire, par exemple, Amour va enseigner à l'université d'Iéna dans les années 1739. Il va y rester presque une dizaine d'années parce qu'il quitte Iéna pour rentrer en Afrique. Cela se passe autour de 1747-1748. Et c'est dans cette même université qu'il viendra enseigner plus tard Hegel.
Oui, oui, donc c'est intéressant de ce point de vue de penser que Hegel, dont nous connaissons les idées sur l'Afrique, a été précédé dans son université par un pur enfant du continent africain.
Parfait, et qu'il ne pouvait pas ignorer ce fait. C'est une hypothèse, c'est mon hypothèse. Et pour aller ensuite dans le... Vous avez présenté le contexte comme étant celui du siècle des Lumières. La chose que je voudrais ajouter, c'est... pas mentionné dans le livre là de façon explicite, c'est que Amour, en tant comme philosophe, est l'un des fondateurs de ce courant. En tout cas, fait partie des gens qui ont porté ce courant qui s'appelle Aufklärung en Allemagne ou en allemand, et il fait partie des principaux animateurs de ce courant des Lumières en Allemagne, parce que j'explique. Il est très proche de Christian Wolff, dont on dit qu'il est l'un des meilleurs disciples. Or, on sait que Christian Wolff a joué dans les Lumières allemandes un rôle prépondérant. Et Amour était l'un des chefs du file du mouvement wolffien. Voilà. Et on sait aussi comment Kant s'est appuyé sur cette figure de Wolff dans ce qu'il a présenté comme sa révolution métaphysique, dans sa fameuse critique de la raison pure.
Mais alors, comment expliquez-vous, Yopo Reka Sommet, que dans les histoires de la philosophie en général, il y en a beaucoup, de très très nombreuses, notamment sur le siècle des Lumières, le nom de Amour est très très rarement cité?
C'est vraiment une question à laquelle je ne saurais pas répondre, et c'est très étonnant. Je pense que... Et encore, nous avons de la chance de pouvoir découvrir Amour aujourd'hui et de pouvoir même le lire. Je pense que si, bon, n'eût été l'intervention de l'abbé Grégoire, le livre que vous avez cité, qui est de 1808, si je m'abuse,
oui.
Et surtout pour notre époque, l'Afrique contemporaine, je pense que c'est grâce à Kuma et à tous les efforts qu'il a faits que l'œuvre de Amour a été sortie de terre pour être exposé au grand public. C'est lui qui a entrepris dans les années 60 et il a confié cette tâche à deux de ses conseillers, donc le professeur Abraham dont j'ai parlé tout à l'heure, et aussi à un autre philosophe qui était beaucoup plus jeune que Abraham, qui s'appelle Kwasi Wiredu. Il leur a confié la tâche de faire toutes les bibliothèques d'Europe et de ramener des copies des œuvres publiées par Amour. Et donc, dans l'ouvrage qui a été publié, ici, et on mentionne expressément que le professeur Abraham a contribué à la traduction de la thèse de philosophie de Amour, donc du latin vers l'anglais, et de là nous avons eu la traduction aussi en français.
D'ailleurs, Kwame Nkrumah a voulu en quelque sorte poursuivre l'œuvre de Amour, puisque lui-même a fait des études, entre autres, de philosophie, et qu'il a réussi à faire le passage de la politique à la philosophie, comme le montre son grand livre, Le Conscientisme, qui était justement un essai du travail de philosophe. Yopo Reka Sommet, votre livre, donc Anthony William Amour, Sa vie et son œuvre, est publié aux éditions Théam, au Plessis-Trévise, en région parisienne. Merci beaucoup à vous d'être venu à notre émission Mémoire d'un continent, émission réalisée par Olivier Raoul.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec l'UNESCO.